Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon?
Quand nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi?
Un serial killer.
Hein?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Bienvenue dans J'ai pas sommeil, le podcast pop culture et féministe. Je suis Sophie Gliocas, je suis autrice, et aujourd'hui, on va parler de serial killer. J'avais envie de revenir sur une passion que je ne cache pas, les true crime. Le true crime, c'est un genre documentaire qui a d'abord été littéraire, puis qu'on a vu se propager énormément à la télé, au cinéma, ainsi qu'en podcast, qui raconte des crimes et l'histoire de criminels, souvent des serial killers, qui ont réellement existé. Moi, il faut savoir que dès 13 ans, j'étais devant ma télé à dévorer des épisodes des Enquêtes Impossibles de Pierre Belmar, que chaque été, je ne loupe pas les hors-séries d'Enquêtes Criminelles de Society, et de manière générale, tout au long de l'année, j'adore les séries et les documentaires sur les serial killers. Mais le pire, ou plutôt le plus intéressant, c'est que je ne suis pas la seule. Il suffit de voir toutes les productions audiovisuelles ou littéraires sur le sujet qui sortent chaque année pour comprendre à quel point c'est un genre populaire. Pourtant, un jour j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à ce genre pour comprendre comment il avait émergé, et j'ai découvert que 2/3 des lecteurs qui lisent des livres de true crime seraient en réalité des lectrices, et que 73% des personnes qui écoutent des podcasts de true crime seraient des femmes. Quand j'ai vu les chiffres, j'avoue avoir été surprise que ce soit autant. Et si vous m'écoutez, c'est peut-être votre cas aussi. Pourquoi est-ce que les femmes sont autant intéressées par les true crime et par les serial killers? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la part du public, et même de la part de ceux qui produisent ces œuvres, littéraires, audiovisuelles, une certaine forme de fétichisation, voire de glamourisation? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, dans ce deuxième épisode.
At the bottom of the couple's staircase.
Peterson's husband is novelist Michael Peterson.
The cop was on me instantly.
There was sufficient evidence to warrant a trial.
The injuries are not consistent with a fall down the stairs.
The charge, first degree murder.
Alors pour commencer cette discussion, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur les origines du true crime. Promis, ce sera pas très long, ce sera pas un cours universitaire, mais je pense que c'est important, car le true crime, c'est un genre à part entière, donc il a une origine, mais aussi des codes. Les premiers récits de crimes qu'on peut dater, c'est dès le Moyen-Âge, avec des audiences qui pour le coup étaient assez restreintes parce qu'on avait beaucoup de récits oraux. À la fin du XVe siècle, on a de nouveaux moyens de communication, comme l'imprimerie, qui ont permis d'accroître ces sujets. Les récits, cependant, ils sont très encadrés par le clergé, qui a comme objectif de réguler la société. Le but, ce n'est pas de mentionner des facteurs socio-économiques, parce que les explications de ces agissements, ce sont forcément des explications bibliques. On parle de péché, on parle de diable, on parle même de possession. Le temps passe, nous voilà au XIXe siècle, et c'est là où nous avons les premières histoires de détectives. On a l'avènement de ce qu'on appelle les Penny Dreadful, c'est une revue horrifique avec des histoires de meurtres, des crimes, il y a souvent une esthétique très macabre, c'est inspiré de faits plus ou moins réels, ça se lisait vite, c'était accrocheur, et ça s'est très vite popularisé. Le XIXe siècle, c'est aussi le développement de toute une esthétique horrifique. On peut citer par exemple l'auteur Charles Dickens qui était fasciné par les crimes. Mais le 19e siècle, c'est aussi l'invention d'un mot très important, le sensationnalisme. Alors attention, ça ne veut pas dire que le sensationnalisme n'existait pas avant le 19e siècle, mais ça a été un terme inventé pour décrire un phénomène, certes déjà existant, mais qui s'est énormément popularisé durant cette période. Le sensationnalisme, c'est un terme péjoratif pour dénoncer des travaux littéraires ou journalistique, dont le but était de provoquer des émotions très fortes au public. Comme son nom l'indique, on est vraiment sur une stimulation des sens. Et la chercheuse Karen Altunen va même plus loin et dit que le sensationnalisme, il ne provoque pas que des sens, mais des sens qui prennent la forme de plaisir. Et ça c'est important, puisque s'il y a plaisir, forcément il y a adhésion, et donc popularisation. Le XXe siècle, c'est l'explosion de toute une littérature autour du true crime. Le livre le plus connu qu'on peut citer et que j'aime beaucoup personnellement, c'est « De sang froid » de Truman Capote, publié en 1959. Et dès les années 60, on a eu beaucoup de livres de true crime qui ont à l'époque beaucoup, beaucoup de photos. Très crues, très graphiques, c'était même le fond de commerce de ces bouquins. Et le fait justement de donner beaucoup de détails visuels sur des crimes, ça donnait l'impression d'une fidélité journalistique qu'il ne pouvait pas y avoir de biais, puisqu'on était sur des faits qui nous étaient présentés de la manière la plus brute. Les années 70, c'est une période tournante pour le true crime, puisque c'est souvent une période qu'on appelle, qu'on surnomme l'âge d'or des serial killers. Et durant cette période, au-delà de toutes les productions de true crime, certains auteurs et certaines autrices vont être véritablement pionniers, puisqu'ils vont changer la manière dont sont racontés ces récits de true crime. On n'est plus que sur du fait, on est sur du témoignage. Je pense notamment à Anne Rule, qui est une femme pionnière dans le genre du true crime, parce qu'elle avait travaillé avec Ted Bundy, c'était une de ses anciennes collègues, et elle a longtemps cru d'ailleurs qu'il n'avait jamais pu causer ses crimes, et qui a raconté justement la relation qu'elle entretenait avec Ted Bundy avant qu'on découvre qu'il est un serial killer. On peut aussi citer McNamara, qui a raconté sa traque d'un tueur en série alors qu'il n'était ni journaliste ni policier. Mais justement, ces récits qui sont très au cœur de l'intrigue et qui se basent sur des témoignages subjectifs, ils sont souvent critiqués comme étant voyeuristes et comme faisant l'économie de l'infâme. Pourtant, ça n'empêche pas le genre de continuer à se populariser. On le voit au cinéma avec des adaptations de romans qui se basent sur des figures charismatiques. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. Et si bien sûr la fiction s'y met, les séries ne sont pas épargnées. Le 21e siècle, c'est une explosion de toute une production documentaire, audio, visuelle et télévisuelle du true crime. En France, je vous ai donc parlé des Enquêtes impossibles de Pierre Belmar qui cartonnent dès le début des années 2000, mais on peut aussi citer Faites entrer l'accusé. Mais la fiction inspirée du true crime continue son apogée. Un genre télévisuel se développe, on l'appelle le crime time soap ou le procedural dramas. On y suit souvent la police qui recherche des tueurs en série, c'est le cas par exemple de la série Esprit criminel de 2005 qui a cartonné, et puis il y en a d'autres qui se démarquent, qui renversent le genre, je pense bien sûr à Dexter de 2006 qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui a décidé de faire justice lui-même et de buter les méchants. Ce genre se développe de plus en plus, avec des concepts qui sont de plus en plus audacieux, originaux, atypiques, et où la figure du serial killer devient de plus en plus centrale, c'est-à-dire que c'est pas forcément les enquêteurs, c'est pas forcément la police, qui est la plus mise en avant dans ses œuvres, mais c'est vraiment la figure du tueur en série, du criminel, et qui est souvent en plus très charismatique. Je pense bien sûr à la série Hannibal, Bates, The Fall, Luther, où c'est une femme qui est la méchante pour le coup. Il y a vraiment un attrait pour la psychologie, le fait de donner une véritable place à ces méchants. Et en même temps que ça, donc, il y a toutes les œuvres non fictives, donc du true crime à l'état brut, qui elles aussi sont de plus en plus audacieuses. Je pense bien évidemment au podcast Serial, qui a donné la parole à un meurtrier dès 2014, qui a eu un succès retentissant. Les podcasts de true crime se développent à l'appel, ne parlons même pas des séries, au point que certaines en viennent à parodier la figure du serial killer et aussi du true crime. Oh my god! I'll never understand what's so amusing about penises. Everyone thinks I did it. Everyone. Dylan definitely did it. Of course he did it. He's like a known dick drawer. Another day, another dick. Pourtant, malgré toute cette effusion, cette ébullition de créativité, il y a vraiment un tournant critique qui va s'opérer dans l'univers du true crime, qui va remettre en question le genre à part entière, à partir de la fin des années 2010. Alors pourquoi à partir de la fin des années 2010? Eh bien pour deux choses. D'abord parce qu'il y a eu MeToo. Les femmes féministes ont beaucoup plus écouté, entendu, prise au sérieux. Et puis parce qu'en 2019, sort le film et la série documentaire sur Netflix sur Ted Bundy. C'est un tueur en série des années 70 qui est très charismatique. On va pas se mentir, Ted Bundy, il est charmant, il est séduisant, il est intelligent. Beaucoup de femmes tombent sous son charme, beaucoup de femmes tombent amoureuses de lui, et c'est justement comme ça qu'il appâte ses victimes. On se focalise énormément sur son intelligence, sur son processus de séduction, sur son physique attractif, mais on s'épanche très peu sur ses victimes, sur l'enfer qu'elles ont vécu, puisqu'il les kidnappait, il les torturait, il les violait avant de les tuer, et puis aussi sur les vies des proches des victimes qui ont été détruites et traumatisées. Après MeToo, ça passe pas. Il y a eu beaucoup de critiques féministes dans la presse, sur les réseaux sociaux, qui ont critiqué la façon dont était glamourisée la figure de Ted Bundy dans ces true crime. Il y a eu vraiment un sursaut général de la part du public, où on s'est rendu compte que c'était pas possible de dresser un tel portrait d'un serial killer. Et même si les féministes ont enfin été entendues sur le sujet, il faut savoir que ça fait quand même plusieurs décennies qu'un certain nombre de féministes se bat contre le genre du true crime. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des femmes féministes qui se battent contre le true crime? Parce qu'on peut se dire, ça raconte juste des histoires qui sont arrivées, des faits divers, c'est du divertissement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le sujet. Pourtant, il faut comprendre que les critiques qui sont apportées, elles sont vraiment intéressantes. Déjà, par exemple, on peut parler de Jane Capuzzi, qui s'interroge sur pourquoi on devrait faire de la figure du tueur en série un monstre, alors que c'est juste un homme. C'est le résultat de la culture patriarcale, le fait qu'un homme déteste autant les femmes. Et puis il y a d'autres féministes qui vont reprocher à l'inverse que lorsqu'on ne joue pas sur la figure du monstre, on va un peu trop jouer sur le fait que ces hommes sont comme tout le monde, et ça crée une espèce de fatalité où, puisque ces hommes sont comme tout le monde, qu'on peut les côtoyer au quotidien, alors on peut rien y changer. Ce qui bien sûr est faux. Les critiques féministes, qui reviennent très souvent à l'encontre du true crime, elles pointent aussi beaucoup du doigt qu'on se focalise beaucoup sur le viol, sur la torture, et que c'est une espèce de forme sensationnaliste, et donc une manière de puiser dans des sensations qui procurent du plaisir, d'une manière profondément sadique. Donc on a un peu l'impression d'être face à quelque chose de très voyeuriste, mais de quasiment pornographique. Et toutes ces critiques, elles sont très justes. Quand vous regardez un true crime et que vous les avez en tête, c'est très difficile de pas les voir. Et donc, quand on entend ces critiques féministes, on peut se demander pourquoi est-ce que les femmes apprécient autant de consommer le true crime sous toutes ses formes. Eh bien, sachez qu'il y a des psychologues qui se sont penchés sur le sujet et qu'il existe une étude de psychologie sociale qui a voulu justement comprendre pourquoi est-ce que les femmes appréciaient autant le true crime. Et les consommatrices du true crime apportent plusieurs réponses très intéressantes. La première, c'est qu'elles développent une empathie pour les victimes, c'est-à-dire qu'elles se focalisent très souvent sur les victimes et non pas sur le serial killer. C'est vraiment une manière pour elles de créer un lien avec ses victimes. Il y a aussi le fait de vouloir comprendre les motivations psychologiques du serial killer, c'est vraiment plonger dans l'état d'esprit d'un criminel. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est les femmes qui expliquent que si elles en consomment du true crime, c'est parce que ça leur donne un sentiment de contrôle. Il y a des femmes qui se disent que plus elles en savent sur les tueurs en série, plus elles pourront éviter ce genre d'horreur. Une des critiques qui revient beaucoup, c'est qu'en fait, le true crime donne vraiment une vision très biaisée de la violence. Faut savoir qu'en fait, les hommes sont plus victimes d'homicides que les femmes, mais ils le sont par d'autres hommes. Donc on est sur un produit marketé pour les femmes, mais encore plus intéressant, c'est un produit qui est marketé pour les femmes blanches. Pourquoi ? Parce que ces histoires de true crime, elles se focalisent surtout sur des histoires de femmes blanches. Pourtant, des femmes racisées qui ont été victimes de violences et de tueurs en série, il en existe. Les histoires où ce sont des femmes noires qui sont victimes, par exemple, de tueurs en série, elles sont beaucoup moins médiatisées et elles vont beaucoup moins donner par la suite des true crime. Et donc l'un des problèmes du true crime, c'est que ça renforce en fait cette figure de la vulnérabilité chez la femme blanche, d'une sorte de fragilité qu'auraient pas les autres femmes. Et ça donne aussi cette impression que sa vie, elle serait plus importante que celle des autres femmes puisqu'on ne parle pas des autres femmes qui sont aussi victimes de tueurs en série. Les réalisateurs et les producteurs de True Crime ont pris en compte ces critiques pour essayer de changer le genre. Donc effectivement, il y a des choses qui se passent dans le monde du True Crime, c'est vraiment pas un genre qui est fixe. Je pense à Blackbird, qui est une super série d'Apple TV, où on a envie que le tueur en série se fasse prendre. On en apprend vraiment plus sur le passé de ce tueur en série, sur comment il en est arrivé à être comme ça, mais c'est jamais fait d'une manière complaisante pour le rendre sympathique.
If you think you could be in danger, you are in danger.
Pourtant, toutes les séries et les productions de True Crime ne font pas des sans-fautes. Je pense que vous avez dû voir passer la polémique récente autour de la série Dahmer sur Netflix. Alors pour l'avoir regardée, ce n'est pas du tout une série qui glamourise le personnage de Jeffrey Dahmer. Il est absolument répugnant. Tout est fait pour nous procurer un sentiment de dégoût. Il y a aussi tout le travail qui a été fait de reconstitution avec beaucoup de mépris pour les familles des victimes qui n'ont pas été prévenues, pour des reproductions exactes de certaines scènes, de certains témoignages de familles de victimes qui n'ont pas non plus été interrogés et qui, moi, je pense, posent encore question sur comment on voit ces œuvres que comme une forme de storytelling et de divertissement où c'est beaucoup plus profond. Et ça sera d'ailleurs ma conclusion, c'est-à-dire que je pense que le true crime est vraiment en train de s'améliorer, qu'il y a vraiment des choses qui se développent, qui sont intéressantes, qu'il faut continuer de arrêter de glamouriser le serial killer pour sa prétendue intelligence, son charisme. Il faut arrêter de lui créer une espèce d'aura. Il faut aussi arrêter de trouver des facteurs ou des raisons qui seraient de l'ordre du spirituel, d'un espèce de mal qui existerait avec un grand M quasi mystique, alors qu'il y a vraiment des facteurs sociaux, économiques et culturels qui peuvent être pris en compte pour comprendre comment on en arrive à une telle violence, à une telle misogynie. Que pour autant, ces explications ne doivent rien excuser, qu'il faut continuer de mettre l'emphase sur ce que les victimes ont vécu, sur ce que leurs familles ont aussi vécu, mais qu'il faut aussi avoir un vrai travail de diversité sur les histoires de true crime qu'on nous présente. Je pense qu'il faut aussi encourager les productions qui se montrent beaucoup plus critiques à l'encontre du système carcéral, mais aussi du système policier dans ce genre de production. Reste encore très souvent des récits très linéaires, où le storytelling est très convenu, et où ça manque, je pense, d'un peu de regard critique sur comment les choses sont faites, comment les choses se sont passées et comment elles auraient pu être mieux faites. Merci beaucoup d'avoir visionné ce deuxième épisode de J'ai pas sommeil, le podcast pop culture et féministe. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à me faire part de votre avis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se dit au mois prochain pour le troisième épisode.